Je voudrais commencer par deux petites histoires. Il n'y a pas d'histoire pour enfants aujourd'hui, ce sont deux histoires pour tout le monde, pour les grands et pour les petits. La première se passe dans un restaurant. Monsieur entre, il a laissé entrer madame, et le petit garçon suit. Il s'installe, et on leur tend un menu, et ils lisent, ils regardent, ils choisissent. Et puis une serveuse arrive, bien, pour vous ce sera. Madame fait sa commande, monsieur aussi, et le petit garçon se dépêche de dire « Pour moi, un hamburger !» Mais le silence ne dure pas longtemps, la maman vite le rattrape et dit « Non, 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 pour lui ce sera de la purée, un steak et des carottes. » Le petit garçon ne dit rien, la serveuse non plus. Elle continue, elle prend les boissons. Et puis, juste avant de partir, elle se retourne et dit « Ah, à propos, quelle sauce pour le hamburger du jeune homme ? Mayonnaise ou ketchup ?» Et le petit garçon dit « Oh, ketchup !» Et elle s'en va. Et le petit garçon, il est là, il y a des choses qui se passent, on voit ça quand un enfant a envie de dire quelque chose, n'est-ce pas ? Et puis tout à coup, il dit « Papa, maman, vous savez quoi ? Eh bien, pour elle, j'existe !» Alors, j'avais un premier... Oui, c'est ce que dit Lydie, c'est que ça ne fonctionne pas trop. Ah, voilà. J'existe. Ah, on ne va pas discuter ici du bien fondé de l'attitude de la serveuse qui n'a pas écouté les parents, ni de la maman, mais de ce cri du cœur. Alors, cri du cœur, il y en a un qui a un cri de lion dans la salle, là. Alors, le cri du cœur, c'est quelque chose de très profond qui se révèle en nous. Et c'est vrai, le besoin d'exister. J'existe. Le besoin d'avoir une place. Le besoin qu'on tienne compte de nous. J'ai beau appuyer, j'avoue que je vois pourtant les choses qui se passent là, mais ça ne réagit pas trop. Voilà. Être pris en compte, être respecté. Ah, c'est d'autant plus difficile aujourd'hui que le respect n'est plus quelque chose d'automatique. Les personnes les plus âgées vous diront « Oh, il n'y a plus de respect aujourd'hui. » Moi, je rectifierai. Je dirais le respect aujourd'hui, comme beaucoup de choses, ce n'est plus automatique. Non, on respecte les gens qui respectent les autres. Un peu comme dans la Bible. Hein. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Oui, le respect, ça existe encore, à condition d'être soi-même respectueux, nous serons respectés. Le respect, c'est peut-être la première marque d'amour, le premier niveau d'un amour. Et par contre, ce qui va nous donner des ailes, voilà, merci, c'est plus encore, c'est ce qui se cache derrière le respect, c'est le fait d'être aimé. Être aimé. Être là dans le regard de l'autre. Ce qui m'amène à ma deuxième histoire. Ma deuxième histoire, ça se passe dans la cantine d'un établissement chrétien. Les élèves font la file, ils passent entre les différents endroits où ils peuvent prendre des choses, ils remplissent leur plateau. Tout au bout, il y a la caisse. Et à la caisse, on enregistre leur nom, leurs coordonnées, tout ce que vous voulez. Et puis derrière la caisse, il y a un plateau de pommes, deux plateaux, avec un petit écriteau, pommes de notre jardin. Alors, n'en prenez qu'une, s'il vous plaît. Et attention, n'en prenez qu'une parce que Dieu vous voit. Il y a de la place en dessous pour autre chose. Parce que le lendemain, voilà que s'ajoutent derrière les pommes des biscuits. Des piles et des piles de biscuits. Et un petit écriteau. Prenez-en autant que vous voulez. Dieu regarde les pommes. D'accord ? Dieu, c'est un autre regard qu'il a. Il regarde peut-être les pommes, mais ce n'est pas ce qu'il veut vous laisser faire. Dieu regarde les pommes. Quel est le regard de Dieu sur nous, sur vous et moi ? Et nous, quel regard avons-nous sur Dieu ? Ce regard est fort lié à une époque, à une culture. Même les traductions de la Bible sont liées à une époque et à une culture. Pour beaucoup, le regard de Dieu est encore un regard moralisateur. Un Dieu qui doit être respecté par principe, parce qu'il est Dieu tout grand. Ou le regard menaçant d'un Dieu, qui est un Dieu justicier, qui cherche avant tout à punir, à condamner, à faire que les choses soient dans l'ordre. Alors la justice de Dieu, qu'est-ce que c'est? Je regarde si je vois Basile, il pourrait peut-être m'éclairer. Nous allons voir ce mot-là aujourd'hui. Trois mots, en fait, parce que j'ai bien peur que trop souvent nous voyons certains mots avec notre regard de citoyens qui ont un héritage romain, avec une justice romaine. Or, le mot justice, ce n'est pas du tout ça dans la Bible. Le mot justice, surtout dans le Premier Testament, celui qu'on dit être si dur et si cruel, le mot justice a un tout autre sens. Alors d'abord, peut-être un premier mot, le mot jugement. Ah, et tout de suite est arrivé un texte. Oui, on peut le laisser. Merci. Je ne sais pas si vous pouvez le lire parce que c'est, pour moi c'est un peu petit. Alors peut-être que dans le fond. Le texte, c'est celui de Jean qui nous dit en vérité, je vous le dis. Et quand quelque chose est dit deux fois, en vérité, ça doit nous attirer. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, celui-là, il a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors si vous et moi nous sommes ici ce matin, c'est parce que je pense nous avons adhéré, nous avons approché et nous essayons de nous tenir au plus près de celui qui est source de vie. Et donc, nous ne sommes pas et nous n'avons pas à passer dans ce que la Bible appelle le jugement. Ce n'est pas une manière rapide d'évacuer un mot, mais quand même, je voudrais que celui-là, on l'oublie pour nous. N'ayez pas l'impression que vous allez être jugé. Je ne suis pas venu pour juger, a dit Jésus. Deuxième mot alors, le fameux mot justice. Merci. N'est-ce pas cette image-là qui nous vient à l'esprit? La justice. On va peser ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien, et puis on va donner un verdict. Est-ce que cela est l'image du mot justice dans la Bible? Et je n'ai pris que des textes de l'Ancien Testament, textes, encore une fois, qui nous paraissent tellement durs à lire le plus souvent. Le premier est dans le Deutéronome. Je crois que ça fait vraiment petit, alors je vais quand même le lire. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives. Ah, nous sommes concernés, la vie, ça nous concerne. Suivre la justice, par contre, ça ne nous dit pas grand-chose. Le deuxième, psaume, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, ça nous éclaire peut-être un petit peu plus, mais j'avoue que marcher, pratiquer la justice, est-ce qu'il faut tous devenir des juristes alors? Connaître bien son code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui. Non. Les deux textes suivants vont nous introduire dans la pensée hébraïque, qui définit quelque chose en le répétant. Et répéter, ce n'est pas dire la même chose, c'est creuser un peu plus profond, comparer, opposer, pour nous faire mieux comprendre les choses. Le texte suivant se trouve dans les Proverbes. Merci. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, on est toujours sur un chemin, mais enfin, mais le méchant tombe par sa méchanceté. Ça vous éclaire un tout petit peu? Il y a une opposition entre la justice et la méchanceté. Voilà déjà quelque chose d'un peu plus clair. Être juste, c'est le contraire d'être méchant. Alors tenez, dans la même ligne, l'Ecclésiaste. Il y a tel juste qui périt dans sa justice et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. C'est quelque chose qui nous a tous frappés aujourd'hui, la mort de telle ou telle personne qui était bien et qui pouvait être jeune. Et puis, d'autres qui sont, bon, je vais presque dire le mot parfois, des vraies crapules dans le monde, et qui vivent bien. Mais c'est pas, il y a quelque chose qui nous choque là-dedans. Mais en tout cas, on a l'opposition, de nouveau, entre le juste et le méchant. Un peu plus loin, dans Ésaïe, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Voilà déjà une piste plus concrète. Cette justice est quelque chose qui se recherche, qui s'apprend petit à petit comme un chemin de vie dans lequel on découvre des choses et qui nous font grandir. Et aussi, on apprend que cette justice, elle va se manifester envers des opprimés, orphelins, veuve, il y a souvent un troisième, quatrième mot qui vient, c'est les étrangers. Tous les gens faibles, en situation d'infériorité, tous les petits, tous ceux qu'il faut protéger. C'est à leur égard, premièrement, que va se manifester la justice. Tous ceux qui n'existent pas, même et surtout aux yeux des bien-pensants. Daniel, lui aussi, va procéder par répétition. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. Mets un terme à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Tous ceux qui ne se sentent pas le droit d'exister, eh bien, est-ce que tu peux avoir un peu de compassion, d'un sentiment de vivre avec eux, de vouloir partager quelque chose avec eux? C'est peut-être cela la justice, partager pour remettre tout le monde sur un pied d'égalité. Pour remettre de bonnes relations, pour pouvoir vivre dans de bonnes relations. Zacharie va clôturer ma liste. Merci. Rendez véritablement cette justice. Ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Un cœur humble, miséricorde, c'est cela. Pour rendre la justice, rendre droit d'exister à ceux qui sont moins que nous. Selon les lunettes bien-pensantes que l'on a tellement souvent dans le monde. Rendez la justice, rendez une place à ceux qui ne trouvent plus leur place. Voilà. Alors le code civil de cette justice-là, la loi de cette justice-là, ben, Jésus l'avait vécu pleinement, résumé pleinement. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Aimer Dieu, c'est vous aimer les uns les autres. Voilà la loi, voilà le code civil, le code pénal dans la justice de Dieu. Rendez les choses bien envers les plus faibles, les petits, les plus fragiles, les malades, les isolés, les nécessiteux. Tous ceux qui aujourd'hui vous tendent la main, ou ne l'attendent plus. Troisième et dernier mot à définir, ça va ? Jugement, non, c'est l'affaire de Dieu et il a dit « je ne viens pas pour juger ». Justice égale bienveillance, rétablissement des bonnes relations. Troisième mot, c'est ce verbe « punir » que j'avais quand même envie de prendre avec vous. En français, vous le trouvez souvent, hein. Ah, et dans l'Ancien Testament, encore mieux, hein. 67 fois le verbe « punir » dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament est écrit en quelle langue ? En hébreu. Alors combien de fois le verbe hébreu pour « punir » ? Oh, 7 fois. Seulement 7 fois. Ah, oh, c'est sûr qu'il y a des petites choses à côté. Reprendre, corriger, instruire. Corriger comme on corrige une dictée, pas en la fouettant comme on corrige un esclave. Non, corriger, reprendre, viens, on va discuter ensemble et on va rectifier le tir. Et de ces 7 fois-là, avec ces 7 fois le verbe punir, qui est le sujet ? Qui est-ce qui fait l'action ? Jamais Dieu n'est le sujet de ce verbe punir. Et à une session auquel je n'ai pas eu la chance d'assister, un rabbin n'a pas cessé de marteler à quelqu'un qui disait « Mais quand même, non monsieur, Dieu ne punit pas. Dieu ne punit pas. Dieu n'est pas là pour vous punir. » Alors, Vous allez me dire, mais vous me troublez là. Si je trouve ça 67 fois et que c'est écrit que 7 fois, moi je ne sais plus où je vais. Vous allez me dire, il y a des mauvaises traductions. Vous allez me faire douter de la Bible. Eh bien oui. Nous savons que la Bible a été écrite dans un certain contexte, avec un certain style. On peut y lire que la terre repose sur des colonnes. Il paraît qu'il y a des gens aujourd'hui qui prônent de nouveau l'idée que la terre est plate. Ils sont bibliques peut-être, je ne sais pas. Toujours est-il que quand vous lisez ça, vous dites, bon, ça doit être une image, n'est-ce pas? Ça, on comprend qu'il y a un style. On peut lire que tel animal, qui est un hippopotame ou un rhinocéros, a des plaques de fer. Enfin, quoi? Naïveté? Ou style? On peut dire, dans la même veine, que la Bible a été traduite dans un certain contexte. Au siècle passé, là où il fallait défendre l'Église, le pouvoir de l'Église, la morale. Là où il fallait faire peur aux gens et leur dire, oui, attention, Dieu te voit. Attention, Dieu te punit. Mettons cela de côté, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va parler de lâcher prise, de bienveillance, d'éducation positive. Aujourd'hui, on va savoir que le cerveau met des années à se former et qu'un tout petit enfant qui ressent les choses, là, ne peut pas activer une zone à côté qui va lui faire comprendre les choses et le pourquoi des choses. Et que cette deuxième zone-là ne s'activera qu'au bout de quelques années. Alors, ce n'est pas un caprice qu'il fait, c'est simplement une émotion qui sort. Et ce cerveau va apprendre, se développer. Nous savons aujourd'hui que le cerveau grandit encore. Mais dites-moi, bienveillance, positive, lâcher prise, laisser faire quelqu'un d'autre, est-ce que ce n'est pas dans la Bible déjà tout ça, depuis des siècles et des siècles? Et le message de la Bible, mes amis, il est plus qu'actuel. Il n'a pas cessé d'être vrai et de nous apporter des choses qui nous construisent, aujourd'hui encore. Alors, la Bible ne peut être parole de Dieu que si vous l'entendez vous parler. Et ce Dieu qui se présente comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, peut-être n'était-il pas le même pour Abraham, pour Isaac et pour Jacob. C'était peut-être un Dieu un peu différent parce que chacun avait une vision, une expérience différente de ce Dieu. Mais ce n'est pas grave, tous voulaient vivre avec ce même Dieu. Et ce n'est pas grave parce que je vais dire que Dieu s'adapte aux hommes. Ça vous choque? Ah, Ninive, n'est-ce pas l'exemple par excellence que Dieu s'est adapté aux hommes? Encore 40 jours et Ninive sera toute retournée, chamboulée. Les murailles ou le cœur? Peut-être le cœur de Pierre. Alors, 40 jours et puis Ninive n'a même pas attendu les 40 jours. Ils se sont chamboulés, ils ont dit tout compte fait, oui, au point de revêtir, de ne plus exister qu'à travers un sac et la cendre, tous pareils dans l'humilité. Donc Dieu s'adapte en demandant aux hommes quand même de le chercher, de nous adapter à lui et de le chercher en creusant. Dire la Bible, je connais, Dieu, je connais, c'est comme dire à vos enfants, « Ah, toi, je te connais, hein, t'es bien comme ça, tu ne changeras pas. » Mais si tu changeras, et tu évolueras, et avec Dieu à plus forte raison. Bien sûr que si que la vie est un chemin où nous changeons, où nous apprenons, où nous évoluons, où notre cerveau s'adapte. Oui, je connais quelqu'un, c'est l'enfermer, je connais Dieu, c'est l'enfermer aussi. C'est en faire une image taillée, tout simplement, une idole de pierre, auquel je me confie un jour et pour toujours. Non, creusons, creusons la Bible pour découvrir l'image de Dieu qu'il veut nous donner. Et que ce soit, je ne sais pas si ça se voit bien, mais de l'eau fraîche, de l'eau abondante, de l'eau qui coule, de l'eau qui ruisselle, qui jaillit. Alors nous n'aurons cette eau fraîche et attirante que si nous creusons. Moi j'appuie tout ce que je peux. Nous creusons des puits. comme les réformateurs ont creusé des puits, comme l'Église adventiste a réformé la réforme pour creuser des puits. Réformons encore aujourd'hui chacun notre propre sentier pour comprendre. Nous n'aurons de l'eau vive que ça. Alors nous avons le choix. La Bible, l'Église peut devenir un désert sec, où on est habitué, comme du roc, ça ne bouge plus. Ou alors devenir un puits dans un jardin attirant, bienfaisant. Nous aurons le choix de creuser des puits. Ça vous dit quelque chose ce dessin-là? Moi j'aime beaucoup, ça se voit dans les Cévennes surtout. Ça s'appelle une lavogne. Et c'est là que viennent boire les moutons, les troupeaux de moutons. Et il y a de la place pour beaucoup de moutons, vous voyez. Alors nous pouvons devenir lavogne, ou encore plus, pour nos amis plus dans le sud, devenir oasis. Voilà ce qui nous est offert en creusant la Bible. Et je voudrais creuser avec vous aujourd'hui un sujet. Le sujet de l'existence même, le sujet de l'amour. Dieu est amour. Ah, ça nous le savons, là. Ah, est-ce que ça suffit? Merci. Non, ça ne suffit pas. Parce que non seulement il faut le savoir, mais il faut y adhérer au point que ça me transforme. Donc il faut quelque part que je le ressente aussi. Le message de la Bible, c'est ça. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Notre esprit peut se renouveler. Soyez transformés pour vivre de nouvelles relations, de bonnes relations. Des relations justes, bienfaisantes, utiles, nourrissantes. Alors une question qu'on peut se poser chacun pour soi, que je peux vous poser, que je me suis posée. Est-ce qu'il ne nous arrive pas parfois de ne pas nous sentir aimés, de nous savoir aimés? Oh ben oui, je suis dans une famille, mes parents, si je suis là, c'est qu'ils m'ont aimé. Je sais que je suis aimée, mais je ne le sens pas en ce moment. Mon conjoint, ma conjointe, mes enfants. Le message de la Bible nous transforme pour que cet amour de Dieu ne reste pas seulement dans le savoir, mais dans le ressenti de chaque jour. C'est à travers l'amour de Dieu que nous allons cerner l'amour humain. Et c'est à travers l'amour humain que nous allons cerner l'amour de Dieu. Alors voilà, dans les familles, les enfants peuvent ne pas sentir l'amour de leurs parents. À l'adolescence, c'est le typique. Les parents ne peuvent pas sentir l'amour de leurs enfants. Je fais tout pour lui et les garçons, ils me traitent comme je sais pas quoi. Dans les couples, lieu de l'amour par excellence, l'un peut ne plus ressentir l'amour de l'autre. Pourtant, il le sait, mais on peut ne plus avoir cette certitude, cette conviction, cette complicité, cet enthousiasme du premier amour. Alors, pour décortiquer ça avec vous, j'ai suivi la piste d'un Américain. Non, ce n'est pas M. Trump, rassurez-vous. Je vais prendre quelqu'un qui a l'habitude d'écouter les autres, dont le métier est d'écouter les couples, surtout. Et à force de les écouter, il s'est rendu compte que dans beaucoup de couples, à un moment donné, l'un ou l'autre vit ce sentiment de non, il ne m'aime plus, elle ne m'aime pas, c'est parti. Et lui, il a essayé de comprendre pourquoi. Et il a dégagé le fait que se sentir aimé, c'est comme parler une langue et comprendre une langue. Et il a défini 5 langages de l'amour. C'est-à-dire, dans les langages de l'amour, les manières d'exprimer. 5, comme si vous aviez 5 chaînes de télévision. C'est peu aujourd'hui, hein, mais ça suffit largement parfois, c'est même encore trop. 5 chaînes, mais qu'il y en a une que vous écoutiez plus souvent que les autres. Au point que les autres, on ne les entende plus. On ne les comprend plus. Il appelait ça les langages de l'amour. Et nous allons voir ensemble aujourd'hui ces 5 langages, en se posant plein de questions. Est-ce que c'est cette manière d'aimer qui me touche, moi? Alors je me sens aimée. Mais mon conjoint, mon enfant, mon parent, mon collègue de travail, mon frère et ma sœur à l'église, quelle est la manière qui les touche? Est-ce que je trouve la manière, le langage, pour toucher celui avec qui je vis? Et puis bien sûr, nous sommes ici aussi pour penser au Seigneur. Quelle est sa manière de me dire son amour? Et quelle est ma manière de lui dire mon amour? Vous voyez que ce mot amour a tellement de facettes, de niveaux, c'est un diamant. Eh bien, explorons ce diamant ensemble, si vous voulez bien. Premier langage, ce sont les paroles. Ah, nous sommes dans un siècle de paroles parfois vaines, de paroles parfois mensongères, de paroles en Belgique très râleuses et critiquantes. Et on le fait ça très naturellement, de critiquer, de voir ce qui ne va pas, de corriger en rouge. Et si nous corrigions en vert, et si nous montrions ce qui va? Alors, les paroles valorisantes, c'est très facile à l'égard d'un enfant. C'est pas grave, ça nous laisse le temps de réfléchir chaque fois. Merci. Alors, dans toutes nos relations, quelles sont nos paroles? Peuvent-elles transmettre de l'amour ou pas? Est-ce que je montre à quelqu'un que je l'apprécie? Vous me direz, c'est normal? Ben non, c'est pas si normal que ça. Quel est le parent qui ose encore dire « ça, je suis content que tu aies fait ça, ça m'a fait plaisir ». Non pas c'est bien, c'est pas bien ou mal en soi, en morale, mais ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Pour apprécier quelqu'un, il suffit parfois de l'écouter, ce qui n'est pas forcément facile aujourd'hui. On parle beaucoup, mais on n'écoute pas beaucoup. C'est peut-être aussi avoir l'humilité de l'estimer. Ah, estimer quelqu'un, c'est croire qu'il vaut au moins autant que moi. Et ça, tout le monde est à ce niveau-là. Écouter, estimer, admirer, valoriser, prendre le temps de le soutenir, de l'encourager, de lui dire ce qui me plaît dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a dit, de lui dire peut-être merci, de lui donner de quoi l'inspirer. Ça m'a plaît, ça m'a plu ce que tu as fait. Ah bon, moi je croyais que ça ne servirait jamais à personne. Mais si, vas-y, continue, deviens ce que tu es, sois toi-même, tu peux. Bien, bravo, merci. Pensons à dire cela, mes amis. Pensons à dire cela dans nos familles, envers notre conjoint. C'est parfois tellement banal que l'un et l'autre fassent ça. Mais non, c'est pas si banal que ça, merci. Et puis, pensons à le dire à l'église aussi. C'est vrai qu'à chaque moment de nomination, on entend des gens dire « Ah non, moi ça n'a servi à rien ». Et puis, ou des gens qui arrêtent au bout de quelques mois parce que si c'est pour me faire réprimander et dire que je n'ai pas bien fait. Mais non, hein. Voyons tout ce qui va, mes amis, et allons de l'avant, parce que c'est ça qui va nous faire grandir. Alors, deuxième volet chaque fois dans ce langage, non seulement ce que je donne et ce que j'entends, mais ce que Dieu me donne. Est-ce que Dieu, oui, nous savons tous qu'il va un jour nous dire « c'est bien, bon et fidèle serviteur ». Mais si c'est un jour, si c'est dans le futur, on aimerait mieux entendre ça dans le présent. Ou dans le passé, tenez, même dans le passé. Qu'est-ce que l'homme? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu as tout mis sous ses pieds. La petite couronne va arriver. Tu l'as couronné. Est-ce que nous nous sentons couronnés comme nous sommes ici? Levons la tête, levons les yeux. Nous avons une couronne. Nous pouvons marcher droit, pas trop courbés par tout ce qui nous accable. Nous pouvons marcher debout, droit. Quel partenariat! Regardez tout ce que Dieu dit de nous. Vous êtes mes témoins. Pour faire confiance à quelqu'un au point de lui donner une procuration pour qu'il soit témoin pour moi, c'est une fameuse marque de confiance. Mais il y a mieux. Vous êtes mes amis. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes les ambassadeurs. Vous êtes notre gloire, notre joie. Vous êtes une race élue, un saint sacerdoce. Oh, quel partenariat, mes amis. Dieu nous a ressuscités en Jésus. Il nous pardonne, il nous aime, il nous accompagne à chaque instant. Et je gardais ce texte là où il y a un petit blanc, là, un petit bleu. Tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi. Et je t'aime. Voilà une parole de Dieu pour nous. Que nous ayons 15 ans, 35, 45, 55, 95 ou plus, tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Oui, Dieu nous parle de cette manière-là. Et puis peut-être que moi, je pourrais aussi lui parler de cette manière-là. Je te loue, je t'admire, je t'adore. Tu es grand, tu es beau, tu es plus que tout ce que je ne pourrais jamais imaginer et rêver. Tu es le tout autre, mais qui me dépasse et qui me prend la main. Et on y marche ensemble. Alléluia pour ces bonnes paroles. Peut-être que les paroles ne vous disent rien. Ce n'est pas parce qu'on dit « t'as bien fait » que vous vous sentez mieux, que vous vous sentez aimé. Alors il faut un deuxième langage. Le deuxième langage, ce sont les moments de qualité. Ah, c'est facile. Nos petits-enfants, c'est facile de leur donner des moments où même sans rien dire, on les prend dans les bras. On les prend sur nos genoux. On leur montre qu'on les aime. C'est facile. C'est facile pour un enfant de dire à ses parents, à ses grands-parents, « Dis, tu viens jouer avec moi ?» Oh, il ne le dit pas, il vous prend la main et il vous tire. Viens. Viens, on va prendre un moment ensemble. Alors quand nous leur donnons de ce temps qui nous est si précieux, c'est parfois à contre-cœur. Oui, on va faire ça. Allez, on joue ça. Oui. Et puis on se rend compte qu'au bout de 5 minutes, ils sont partis. Ce n'était pas la durée qui comptait, c'était la qualité de ce temps. Un moment de qualité. Prendre un bon moment avec quelqu'un. Passer du bon temps, prendre le temps. Et aujourd'hui, mes amis, c'est le jour où l'on prend le temps. Le sabbat, c'est le jour par excellence des relations, de prendre le temps d'être ensemble. Alors, essayons de prendre du temps, d'être ensemble, d'offrir du temps, de donner du temps. Un jour où l'on peut partager le temps. Faire ensemble ce qui fait plaisir à l'autre. Alors quand quelqu'un prend du temps pour vous, ça parle pour vous? Vous vous sentez aimé? Peut-être que ça ne parle pas. Et si ça parlait à votre conjoint de passer un petit moment ensemble, il faudrait peut-être prendre le temps. Même si c'est à vous, ça ne parle pas, ça peut parler à l'autre. Et à Dieu, tiens Dieu, est-ce qu'il prend du temps avec moi? D'abord, Dieu, on va dire qu'il a créé le temps pour moi. Il a créé le jour, la nuit, les saisons. Et puis, il me donne des moments de qualité avec lui. N'avez-vous pas ces moments où vous êtes seul avec lui? Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et là, dans le silence, on est à deux, on peut prendre du temps. Et le temps ne compte plus dans cette espèce de tête-à-tête amoureux. Comme disait Osée, « Je parlerai à ton cœur ». La prière, la méditation, oui, ce sont des moyens que Dieu nous donne pour se donner à nous, pour nous donner un temps pour voir ensemble ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu, comment on a marché. Et je peux aussi me poser la même question, moi, quels sont les moments que j'offre à Dieu pour cette communion, pour ce bien-être? Je souperai avec lui et lui avec moi. On cesse de s'activer pour être ensemble. Quels sont les moments que j'offre à mon conjoint, à mes enfants, à mes parents vieillissants? C'est parfois pas facile, mais c'est un point important. Quels sont les moments que j'offre au Seigneur? Parce qu'il a des choses à me dire. Mais si je ne viens pas écouter, je loupe des choses. Si le temps passé ensemble ne vous dit rien, si les mots qu'on vous adresse ne vous disent rien, il faut passer à un troisième langage. Le langage suivant, ce sont les cadeaux. Ah, là on en a des cadeaux. Oh, pas forcément des grandes choses, hein. Un ballon de baudruche, de l'air, du vent, c'est un cadeau. La fleur que nous donne un enfant, le dessin que nous offre un enfant, c'est un cadeau. La fleur que vous donne celui que vous aimez, celle que vous aimez, c'est un cadeau. Voilà des cadeaux, des objets tangibles qui vous montrent que vous existez, que vous êtes là. Ne dit-on pas que les petits gestes entretiennent l'amitié, les petits cadeaux? Alors je passe à l'étape Non pas ce que j'offre, ni ce que je reçois, mais qu'est-ce que Dieu m'offre comme cadeau? Les cadeaux d'en haut. Alors là, vous avez des cadeaux qui vont apparaître, et moi je ne vais plus rien dire. Parce que maintenant, c'est peut-être le moment, je ne vous donne pas la commande parce que c'est un peu difficile, mais je vous propose de me dire chacun, chacune, peut-être pas tous parce que je n'ai eu que 12 places pour mettre des cadeaux, donc des cadeaux que vous sentez avoir reçus de Dieu. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir reçu un cadeau de Dieu? Et lequel? Les enfants, le travail, m'en voilà déjà deux. Merci, c'est vrai que ce sont des chouettes cadeaux, ça. La santé, attendez qu'il arrive, le troisième. Merci. Le travail, les enfants, la santé, la vie, bien sûr, avec un bonheur rose. La liberté, oh oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un point important. Et que la Bible, ben, c'est vrai ça, pour me nourrir, c'est important. Et ça me donne des trouvailles à faire, oui. Oui, j'en ai deux en même temps. Alors allons-y, la nature et le pardon. C'est vrai, pouvoir redémarrer chaque journée. Une nouvelle journée, un nouveau départ. J'ai encore une ou deux places. La famille, bien sûr, on a dit les enfants, mais il y a aussi le conjoint, alors. Les parents. Allez, qu'est-ce que j'avais encore? Exactement. Allez, on le met en plus, hein, parce que les femmes, ça en vaut bien deux. Voilà. Oui. Oh, moi j'avais encore les talents qu'il nous donne, le fait de pouvoir écouter, c'est pas toujours facile pour tout le monde, et il y en a pour qui c'est facile. Tenez, il y en a même un qui nous fait être ici ensemble, l'Église. Vous me direz, c'est pas toujours un cadeau. Eh bien, c'est vrai, parce que Dieu, il n'est pas là dans son petit nuage, et il ne me demande pas de vivre dans un petit nuage. Dieu est le Dieu concret de la vie, et la vie implique des moments pas faciles. Je crois que Jésus a été payé pour le savoir, que ce n'est pas toujours rose de traîner derrière soi, derrière soi des disciples qui parfois ne comprennent rien, d'avoir une foule qui vous dit « Youpi !» un jour et qui vous dit « Crucifie !» le lendemain, d'avoir des gens qui conspirent, qui complotent. Oui, c'est vrai. Et dans l'Église, nous sommes tous humains. Et heureusement, si nous étions déjà dans un autre royaume, peut-être que ce sera, enfin oui, ce sera différent, ça c'est sûr. Mais on s'ennuierait peut-être un peu. Donc pensez à cultiver des choses qui vont rendre la vie dès maintenant. Je ne crois pas qu'on s'ennuiera. Il y aura des merveilles à découvrir. Mais il y a déjà aujourd'hui des merveilles à découvrir dans chacun. Quand je vois nos jeunes ici, quand je vois Sephora qui joue au piano, eh bien moi ça me laisse bouche ouverte. Quand je vois des jeunes qui connaissent leur Bible, ça me laisse bouche ouverte. Quand je vois des enfants qui explosent de joie, ça me laisse bouche ouverte. Quand je vois Margot qui enserrait ses grands-parents-là, ça me laisse... Alléluia, la vie a de belles choses, mes amis. Cultivons, recevons tous ces cadeaux dès aujourd'hui. Ça vaut la peine. Alors, il y en a pour qui les cadeaux, c'est pas grave. Moi, de toute manière, je ne les mérite pas. De toute manière, je ne vaux rien. De toute manière, on ne m'aime pas. Alors, qu'est-ce qu'il faudra dire? Comment faudra-t-il parler pour que ces gens-là comprennent qu'ils sont aimés? Merci. C'est le langage suivant. C'est, tiens, je peux vous aider. Oh, c'est un cadeau de rendre service. Il y en a dont la vie est tellement active et agitée et qui sont tellement remplis du faire, il faut faire et faire et faire, que la meilleure manière de leur montrer qu'on les aime, c'est en faisant avec eux. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous rendre service? Alors, la première chose auquel moi, en tant que femme, j'ai pensé, c'est toutes les tâches ménagères. Alors, si vous faites une petite recherche sur Internet, tâches ménagères, et vous voulez voir des images, eh bien, vous verrez des femmes partout occupées à plein de choses. Messieurs, ceci s'adresse aussi à vous aujourd'hui. Mais les choses changent. Les choses ont déjà bien changé. Alors, quel est l'âge pour rendre service? Je vois un plus jeune là, toute petite là. Encore une demoiselle là. Croyez-vous qu'il puisse rendre service, ses enfants? Bien sûr, merci. Voilà, je peux aller promener le chien. Ou le chien me promènera. Je peux aider pour la vaisselle, de préférence en plastique. Je peux arroser les fleurs, surtout si l'eau qui a un trou peut s'écouler en dessous, mais c'est pas grave. Je peux... Ah, ça c'est les messieurs. Donc c'est plus l'âge maintenant, c'est le lieu. Ça peut être à la maison. Il y a un chef scout, il n'y a pas un mois, qui me disait « Ah, mais moi, j'aime bien repasser, je repasse à la maison. » Qu'est-ce qu'on peut encore faire à la maison? Ben, sortir les poubelles, rendre service. Tenez, ça, c'est un petit geste qui fait parfois bien plaisir, qui fait sentir qu'on est aimé. Ça peut être dans la maison, ça peut être à l'extérieur aussi. Dans la maison, les bricolages, à l'extérieur. À l'extérieur, dans le quartier, à l'extérieur, un peu plus loin, tous les bénévolats qui existent aujourd'hui. Je rêve, moi, d'une église qui soit mise dans une banque de données. J'ai ma personne âgée là, a besoin d'un plombier. Brout, ah ben voilà, tel frère est très doué. Ou telle sœur. Et puis moi, par contre, je fais très bien des tableaux en Excel. Ah ben, je pourrais aller aider telle personne. Et puis telle autre qui sait faire des gâteaux. Oh, ça pourrait servir à telle personne. Mais souvent, nos églises sont trop petites. On ferait ça dans une église de 3000 membres, peut-être que ce serait plus efficace. Mais prenons aussi le temps de rendre service dans nos familles et à l'église. L'église, c'est l'endroit du service par excellence. Alors, pensons-y, c'est une manière de dire « je rends service ». Alors, vous allez me dire « et Dieu, est-ce qu'il me rend service ?» Eh bien, là, j'ai mis juste une chose. Voilà. Garde-toi de dire en ton cœur « ma force et la puissance de ma main m'ont acquis mes richesses », je pourrais même dire. Que tout ce qu'on a, c'est grâce à nous. Dieu, bien sûr, par rapport au peuple hébreu, il les a sortis d'Égypte, il les a nourris dans le désert, il a mis des ennemis en déroute, et Jésus aussi, il a guéri, il a ressuscité, oui. Mais ça, c'était des moyens pour faire comprendre l'amour de Dieu, mais c'est peut-être pas comme ça qu'il me parle à moi. Alors, est-ce que Dieu t'a pas rendu service pour trouver du travail? Ah, tout compte fait, peut-être bien. Pour réussir un examen ou pour le préparer, peut-être que Dieu t'a inspiré des choses. Pour organiser tes journées, pour gérer ton temps, ce qui est tellement important aujourd'hui. Ah, Dieu t'a peut-être bien aidé. Garde-toi de dire en ton cœur, c'est grâce à moi que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, m'arrive. Parce que tu as des services. Des services incognito. C'est Albert Einstein qui disait le hasard. Le hasard, c'est Dieu qui agit incognito. Quelle délicatesse, quelle tendresse, quel respect de nos libertés, tous ces incognitos de Dieu. Et j'arrive au cinquième langage. Parce que peut-être jusqu'à présent, toutes ces choses-là, ce n'est pas encore ça qui font que vous vous sentiez aimé par quelqu'un. Eh bien, voilà, c'est déjà affiché, merci beaucoup. Le toucher physique. Peut-être que ça n'a pas d'importance pour vous, peut-être aujourd'hui, mais peut-être que demain, peut-être. Il y a un contact nécessaire, c'est sûr que dans le couple, il y a un contact, ça c'est clair. Encore faut-il le cultiver. On peut vivre à côté sans oser se toucher, c'est pas. Ça commence, le contact, avec les câlins qu'on fait aux enfants. Ah, ça, c'est pas difficile. Et on en voit tout plein. Et quand on est ici, je vous assure que j'ai l'occasion de voir des petites choses qui font plaisir. Ça commence avec les câlins aux enfants, câlins de maman, câlins de papa. Ça, c'est quelque chose qu'apporte notre siècle, je trouve. Avant, les pères ne s'occupaient quasi pas de leurs enfants. Aujourd'hui, quand un papa fait un câlin, ça fait toujours plaisir à voir. C'est délicat, vous me direz. Des câlins aux enfants, aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend comme pédophilie, on n'ose plus trop câliner un enfant. Si on est papa, ça va, grand-papa, ça va, l'oncle et la tante, c'est parfois un peu plus délicat. Pourtant, c'est bien ce dont a besoin un enfant, de se blottir contre quelqu'un, de se blottir dans les bras de quelqu'un. Et plus l'enfant est petit, plus le contact physique est important. Vous connaissez le mot « hospitalisme ». C'est donc dans les hôpitaux, On a fait une triste expérience, non pas de négliger certains, parce qu'ils étaient tous négligés à l'époque, mais de favoriser certains, en les prenant plus dans les bras, les bébés, en les prenant plus longtemps dans les bras, en leur parlant un petit peu. J'ai même vu sur Internet un jour qu'il y a un monsieur qui se propose aux États-Unis comme grand-papa de substitution dans les hôpitaux pour câliner les enfants dont les parents ne peuvent pas venir pour l'une ou l'autre raison. Donc, les petits, c'est facile à câliner. Et quand j'ai ma petite fille qui vient à la maison, elle n'a pas 2 ans, je suis assise dans le fauteuil, elle vient s'asseoir et elle vient tout contre, tout contre, tout contre. C'est vraiment mignon. Et si c'est elle qui s'est assise la première, elle tape sur la côté. Allez, viens, contre moi. Les enfants ont besoin de se toucher, besoin de sentir qu'ils existent. Les adolescents, il faut peut-être moins les toucher, ça c'est vrai. Bon, mais alors vos parents, là, ils ont peut-être encore besoin de nouveau d'être touchés, n'est-ce pas? Une personne âgée à qui on prend le bras, à qui on tient la main, c'est important. Quand j'étais à Colombes, j'avais une assistante à la troupe qui parfois prenait, tapait sur l'épaule d'un des explos. Et ça m'avait choqué au début. Je me dis, mais enfin... Et elle avait raison. Pourquoi pas? Pourquoi pas leur dire, tu existes, tu es là pour moi. Alors prenons le temps à l'égard des autres, à l'égard des adultes, à l'égard des personnes âgées. Je crois que c'est un grand manque pour une personne âgée d'exister comme ça. Entre jeunes, c'est peut-être plus facile, d'accord que là, alors on poserait peut-être une question de limite, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une chose qui est très chouette et qui est très courante aujourd'hui, et qu'on a fait avec les jeunes, là, dans la journée dont le nom m'échappe maintenant. Voilà, Global Free, Global Youth Day, merci. Free Hugs, des câlins gratuits. Et on est, qui a eu l'occasion, ici, s'il y a quelqu'un qui a eu l'occasion de donner des câlins? Non? Oui? Pardon? Tu as eu l'occasion d'en donner? Et tu as une expérience? Tu as vécu quelque chose où les gens... Oui, c'est vrai. Dans les paroles, il y a le rire aussi, ça détend terriblement. Oui, c'est agréable et c'est rigolo. Il y a des gens dont c'est peut-être la seule fois de la journée où ils seront dans les bras de quelqu'un, touchés par quelqu'un. Alors Dieu, eh ben oui. Dieu, ah vous allez me dire, non, je ne le sens pas physiquement. Ah, il y a des gens plus sensibles que d'autres qui me disent parfois, il y a quelque chose qui m'a pris aux tripes, ou tout à coup j'ai frissonné. Bon, c'est vrai, mais Dieu se présente quand même comme celui qui va au-devant de son enfant, qui le serre dans ses bras. Comme il était encore loin, son père le vit, l'enfant. Et le père fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Description très physique de l'amour du Père. Un Père qui prend son enfant dans les bras. Un Jésus qui va toucher les gens, physiquement aussi. Ésaïe, Jérémie, Daniel rapportent avoir été touchés par un ange, un messager. Et nous, acceptons-nous d'être touchés par Dieu, au moins au niveau de mes émotions? Est-ce qu'il y a encore des choses qui me touchent? Je peux descendre de mon petit nuage pour être touchée. J'ai entendu dire qu'il y avait, je dois lire mes notes là, en Allemagne, en Basse-Saxe, dans un district de Göttingen et dans la localité de Dransfeld, une église, l'église Saint-Martin. Alors, les amateurs de tourisme, vous avez pu noter, église Saint-Martin, village Dransfeld, Göttingen, sud de la Basse-Saxe, il y a cette église, et ben voilà, il y a cette statue, qui a longtemps été reléguée dans les oubliettes, dans les archives, les poussières. Et puis tout compte fait, on l'a ressortie, elle est bien en place, avec un petit papier. Le Christ n'a pas de main, seulement nos mains, pour faire son travail aujourd'hui. Je dirais pour faire son travail et pour montrer son amour aujourd'hui. Le Christ n'a que nos mains. Ah, je vois une montre par là. Oh, ça va. Il est l'heure de récapituler avec vous, si vous voulez bien, 5 manières d'aimer et de ressentir l'amour. Ça peut être le langage. Je manifeste mon affection quand je dis des choses positives. Réfléchissons à ce que nous disons. Ou quand j'entends des choses qui me qui me valorisent, qui me font du bien, qui me montrent que j'existe, avec ou sans ketchup. Entendre. Est-ce que je suis de celui, de celles qui disent et qui entendent le positif des autres, positif aux autres, positif de Dieu et positif à Dieu. Ou alors peut-être que je me sens plus aimée quand je prends un moment de qualité pour être avec quelqu'un, se promener et recevoir ce moment de quelqu'un. Peut-être que c'est ça qui me fait du bien. Pensons-y et osons le dire, osons le demander, osons dire « ça m'a fait du bien » pour qu'on renforce ce lien-là avec nous. Peut-être troisième langage, que j'aime bien les cadeaux. Les gestes concrets, les signes concrets, comme certains enfants, chaque fois que vous revenez, disent « t'as un cadeau pour moi aujourd'hui ?» Bah, peut-être, pourquoi pas. C'est une manière, et ce n'est pas des gros cadeaux. Est-ce que j'aime offrir? Est-ce que j'aime recevoir? Est-ce que je suis conscient de recevoir? Et est-ce que je peux offrir quelque chose à mon père? Oui, donne-moi ton cœur. Est-ce que ce sont des services? Est-ce que j'aime bien prêter des choses, prêter main forte? Est-ce que j'aime bien qu'on m'aide, qu'on vienne à mon aide? Il y en a qui n'aiment pas du tout. Bon, bah, c'est pas leur langage. Mais voyons voir. Et le dernier, est-ce que j'accepte qu'on me touche ou je peux toucher quelqu'un pour lui montrer tu existes, tu es là? J'accepte d'être touché. Est-ce que c'est cela mon langage? À chacun de trouver le sien. Et vous vous rendez compte que ces langages-là, ils sont importants dans notre vie de couple, dans notre vie de parents, de grands-parents, dans notre vie à l'égard de nos parents, si nous avons encore la chance de les avoir, et dans l'Église. Dans l'Église où, par excellence, c'est le moment de se poser une question. Seigneur, face à ces cinq langages, lequel veux-tu que j'emploie aujourd'hui, là où tu m'as mis? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je sois pour être tes mains d'amour? Pour être ta voix d'amour, pour être ton temps d'amour, pour faire des cadeaux ou rendre service. Que Dieu nous aide à utiliser cela concrètement dans nos vies, parce que c'est comme ça que nous allons transformer le monde autour de nous, nous autour de nous, dans l'Église et dans le monde. Merci. Amen.